Évasion par Clarissandre. Parfois le sort, ombre de la mort, triste sire et vil satire, telle une muse fuse et abuse. Du malheur il ouvre l'écluse et jamais ne s'excuse. Par lui percluse, vivant recluse, j'accuse et le récuse. La trêve toujours il refuse. Aucune indulgence de cette engeance, même pour l'innocence de l'enfance. Avec lui, nulle insouciance. Jaloux de sa sinécure, il m'emmure, et ce que j'endure, mes blessures, mes fêlures, il n'a cure. Quoi qu'il advienne, rien ne le freine, ni mes peines, ni ma haine. Il pose ses chaînes. Pour moi, point de repos ou de ripaille, que les mots, les cris d'entrailles. Mais vaille que vaille, même si parfois je baille, braille et déraille, oubliant mes failles, malgré les plaies, les entailles, toujours je bataille et ferraille. Si, trop fragile et gracile, souvent les âmes vacillent, au baptistère du mystère, des cieux baptisés du divin feu, mon âme en fer s'est forgée au cratère délétère de mon si douloureux enfer, et à jamais guerrière, elle rêve et espère. Prisonnière réfractaire, je suis parti. J'ai fui à bord d'un bateau le chaos de mes nuits, de ma vie. Des horizons lointains à mes murs limités, dans la nuit en écho répété, mes appels aux fées je lance, comme fil tissé d'espérance. SOS, au grand thaumaturge, de mon destin le dramaturge. Les mots au cœur enlacés, ivre dire, en proie au délire qui délivre, enfin libre de vivre sur ce navire qui dévire, mais jamais ne chavire. Embarcation, au doux nom d'imagination, ma passion, mon évasion. La voile, je tire. De bord, je vire sur l'onde créatrice et salvatrice. Nouvelle tentatrice, impératrice, actrice ou cantatrice, mille vies s'offrent à mes vices ou caprices. Je vertueux ou tortueux, un esprit pris d'envie, d'appétit, de vie, qui les entrave à décider de larguer les amarres et de jeter le sort par-dessus bord, prêt à tout pour garder son dernier trésor. Clarissandre, le 22 octobre 2022.
Libre indépendant, voici votre animateur Distomane.
Nous sommes le 17 juillet 2023. Bienvenue à cette édition exclusive des Disto News, une présentation de distoman.com, de radioimpact.ca, créée par Guy Boulian, qui a été ajouté à l'importante application mobile Radio FM avec un bassin de plus de 50 millions d'auditeurs sur Google Play, App Gallery, Amazon App Store, Android TV, App Store Alexa et plus. Je suis accompagné aujourd'hui à la recherche par Panda Patriote depuis le Saguenay, par Marie-Ève depuis Monkeypox Montreal. L'équipe est également composée de Vic Survivaliste, conseiller stratégique Jean-Luc Blackburn, chroniqueur, Guy Boulian, partenaire stratégique, Peter Saint-Onge, PhD, chroniqueur, Donald Best, chroniqueur et plusieurs autres vont s'ajouter au fil des semaines qui s'en viennent. Écoutez les podcasts de Distomane sur Radio Impact et participez au tirage d'un livre différent à chaque mois, une courtoisie des éditions dédicaces. Notez le code secret qui sera révélé pendant le show et prenez la chance de gagner un livre en format papier. C'est la Société Fabienne pour ce mois-ci qui vous sera expédié directement à votre domicile, peu importe où vous habitez. Pour cela, vous n'avez qu'à remplir ce formulaire en ligne www.guyboulian.info/disto. Le tirage aura lieu le 8 août. Le code secret d'aujourd'hui, eh bien, mesdames et messieurs, il sera révélé un peu plus tard au cours de l'émission. à n'importe quel moment, c'est pour vous garder avec nous. On est des petits snoraux. Vous vous êtes sûrement aperçu qu'il y a eu des changements structurels énormes au niveau de distoman.com qui a pris sa forme définitive. Le layout est ultra moderne et les chroniqueurs qui s'ajoutent sont d'une qualité exceptionnelle. C'est beaucoup de travail et j'en suis extrêmement fier. Les mondialistes proposent un choc financier et un contrôle du climat pour lancer leur grande réinitialisation à la fin du mois de juin. Les chefs des gouvernements et des représentants des groupes de réflexion du monde entier sont réunis à Paris à l'occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Parmi les participants figurait le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le secrétaire du Trésor américain Janet Yellen, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, du coup, je pense que je ne l'ai pas manqué, et le président de la Banque mondiale du nom de Aye Banga. Ouais, Aye Banga. Et là, 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 là. L'objectif supposé de ce sommet-là, c'était de trouver des solutions financières pour lutter contre la pauvreté tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Comme pour tous les événements qui sont liés au changement climatique, bon, la discussion à Paris s'est inévitablement orientée vers la centralisation du pouvoir et la formation d'un consortium mondial pour résoudre les problèmes que, selon eux, là, dans leur jargon à eux, les nations souveraines ne peuvent pas ou ne veulent pas résoudre. Pour eux, il faut se dire que les nations souveraines, c'est l'ennemi juré. Il faut se dire que les banques centrales et les banques internationales sont soudainement plus préoccupées par la taxation du carbone et le réchauffement climatique que par la stagflation et l'effondrement de l'économie. Probablement parce que c'était l'objectif depuis le tout début et que l'effondrement économique, ça fait partie du plan. Ben oui, les mondialistes associent désormais la question du changement climatique à celle de la finance internationale et de l'autorité monétaire. En d'autres termes, ils se cachent même pas. Hein. Bon, du fait que l'agenda du changement climatique, ça fait partie de l'agenda du Great Reset de Klaus Schwab. Ils suggèrent même que la menace du changement climatique soit utilisée comme un tremplin pour donner aux banques mondiales plus de pouvoir pour dicter la circulation des richesses et démanteler le système existant afin de le remplacer par un truc qu'eux vont décider ou quelque chose d'autre, en tout cas. Bon, Emmanuel Macron, le gérontophile en chef, a déclaré aux délégués du sommet à Paris que le monde a besoin d'un choc financier pour lutter contre le réchauffement climatique tout en créant une équité pour les nations moins riches. Bullshit. Il a également affirmé que le système actuel n'était pas adapté pour relever les défis mondiaux. Les intervenants ont noté que l'environnement économique international a été affecté par un certain nombre de crises, notamment la pandémie puis la guerre en Ukraine, par exemple. Mais ils ont mis l'accès sur la spirale du coup des catastrophes, liées à la météo et au climat, là, intensifiées par le réchauffement climatique, selon eux, comme étant la raison de la déstabilisation continue des systèmes financiers. Comme si pour mettre plus d'argent, c'était pour régler le problème. Alors, il est clair que ça n'a aucun sens, mais cela correspond à la programmation narrative que les mondialistes tentent de créer en liant le déclin économique au changement climatique. En réalité, il n'existe aucune calice de preuve que les événements météorologiques mondiaux sont pires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a plus de 100 ans, avant que les industries productrices de carbone ne soient largement répandues à travers la planète. Il n'existe aucun lien avéré entre les émissions de dioxyde de carbone et un quelconque phénomène météorologique. Cette affirmation-là, c'est une escroquerie. Il n'y a pas de crise climatique causée par l'homme. Eh bien, écoutez, combien de personnes se laisseront berner en croyant qu'il y a une crise climatique, puis dans quel but cette peur hystérique-là va-t-elle être exploitée par les grands maîtres de cette planète? Bon, il faut dire que le premier ministre de la Barbade, un certain Mia Mottley, bon, comme de nombreux mondialistes, a préconisé de réimaginer le rôle de la Banque mondiale puis du Fonds monétaire international à l'ère du péril climatique. La personne a déclaré « Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est une transformation absolue et non une réforme des institutions. » Antonio Guterres, bon, l'enculé en chef de l'ONU, a déclaré que le système financier mondial qui est conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre des accords de Bretton Woods n'est pas en mesure de répondre aux défis modernes et bien entendu, eux autres, ils ont une solution clé en main, ils veulent être en mesure de réformer la société au niveau mondial dans un giron communiste sans fin et un carcan numérique de contrôle total de tous les mouvements des êtres humains sur cette planète. We'll be right back. Bon, là, les vacances s'en viennent. Écoutez, j'ai remanié le site beaucoup plus d'avance parce que je l'avais annoncé pour le 15 septembre. Comme d'habitude, je suis un petit vite. Avant de partir pour une couple de semaines, parce que ça va me faire du bien, là, on a mis beaucoup de jus ici, puis sur Twitter, puis ailleurs, puis tout ça, puis à un moment donné, ça tire pas mal d'énergie, puis il faut que j'aille me ressourcer si je veux être meilleur, en tout cas, espérer de l'être. Il faut que je vous quitte en vous laissant un truc que vous allez probablement écouter pendant 3-4 semaines. Oui, parce qu'on veut revenir le 8 d'août, ici au niveau de l'édition exclusive. Eh bien, j'ai goût de vous laisser sur un truc à propos de Poutine. Oui, et tout le bordel qui a amené Poutine à déplacer des pions sur son jeu d'échecs. L'opération militaire spéciale, l'OTAN, la Chine, etc. Écoutez, prenez le temps de réécouter ça si vous n'avez pas tout catché, OK? Parce qu'il y a des trucs importants là-dedans. Puis c'est pour ça que je veux laisser un document de référence avant de quitter pour les vacances. Moi-même, je pense que je vais le réécouter puis je vais me faire une tête là-dessus. Alors, en février 2007, sous l'imposante aura de la conférence de Munich, bon, à propos de la politique de sécurité, Vladimir Poutine s'est retrouvé à la tribune, prêt à prononcer un discours d'une portée considérable. Aujourd'hui, ce monologue essentiel, baptisé à juste titre « Le Manifeste de Munich », y est vénéré pour sa critique acerbe de la hiérarchie mondiale existante, son anticipation prophétique des bouleversements géopolitiques imminents et son projet d'un monde multipolaire qui est en train de naître. Son récit audacieux et inflexible était une critique acerbe de l'unilatéralisme occidental. Excusez-moi, j'essaye de me prendre pour un grand lecteur de nouvelles, ponctué d'un cri passionné contre l'expansion incontrôlée de l'OTAN. Le message de Poutine était imprégné d'une colère légitime, indéniable face aux violations croissantes de la sécurité et de la souveraineté de son pays, la Russie, au mépris du droit international et des institutions internationales, ainsi qu'à une crainte existentielle imminente qui tenaillait sa nation. Pourtant, c'est comme si son augure avait été accueilli, bon, par un cœur de silence. Alors, aujourd'hui, on assiste à l'émergence du monde multipolaire imaginé par Poutine à Munich, qui réaffirme la souveraineté des nations et la montée des grandes puissances face l'unilatéralisme occidental. J'ai de la misère avec ce mot-là, qui est aujourd'hui qui est disparu. Alors, ignorer les nombreux avertissements prémonitoires de Poutine, eh bien, ça a déclenché un effet domino d'événements qui ont remodelé la dynamique autour du pouvoir mondial. Le discours de Munich était plus qu'un miroir reflétait l'agitation de la Russie. C'était le signe avant-coureur d'un changement sismique dans l'ordre mondial, un changement déclenché par l'indifférence de l'Occident face aux appréhensions de la Russie et aux conflits géopolitiques qui en ont découlé. Il faut dire que l'idée centrale de ce traité-là, c'était que le discours de Munich de Poutine, entrecoupé d'avertissements, bon, restait lettre morte, ça c'est la routine habituelle, quoi, a non seulement précipité la crise et la guerre en Ukraine, mais ça a aussi précipité l'avènement d'un monde multipolaire. Ce discours-là résumait la position de la Russie en tant que poids lourd souverain manœuvrant un système international qui mettait de plus en plus en péril sa sécurité et ses intérêts économiques, en particulier dans le sillage de l'expansion de l'OTAN après 1998 et des affrontements qui ont suivi en Yougoslavie, en Irak, en Géorgie, en Libye, en Syrie et finalement, ça menait à un face-à-face désastreux en Ukraine. Alors, dans cette analyse approfondie, là, on va se pencher sur le discours de Poutine à Munich, sur ses accents prophétiques et sur les retombées brutales du rejet de ce discours-là et de son projet. On va établir un lien entre les thèmes abordés et les événements géopolitiques des deux dernières décennies en soulignant leur pertinence dans le contexte mondial actuel. Alors, à travers ce prisme déformant, comme le disait si bien Régis, le maire de Québec et la bombe, on aspire à fournir une compréhension convaincante de la dynamique du monde multipolaire qui est naissant, du rôle crucial de leadership des Russes dans cette nouvelle ère et des répercussions profondes d'une sourde oreille à l'appel solennel d'une superpuissance à la considération et la reconnaissance de ses droits souverains et de ses intérêts. Mais avant, gang, on va décanter tout ça, on va écouter une petite toune et puis après ça, on embarque dans le gros steak. C'est parti! Thank you. est cool, cette musique-là. Elle me fait penser quand je me promenais avec mon chien dans le parc de la Martinière à Lévis, quand on allait faire de la recherche ensemble le long des rivières, on passe au travers des ravages. C'était des moments de pure liberté. Et oui, également, le code secret, mesdames et messieurs, pour le tirage en lien, pour gagner un livre qui est une gracieuseté des éditions Dédicaces, qui vous sera envoyé directement chez vous, La Société Fabienne. C'est un chef-d'œuvre, mesdames et messieurs. Le code secret aujourd'hui, c'est Echo, le nom de mon meilleur ami qui m'a quitté. Bon, le discours de Poutine, allons dans le contexte. Au lendemain de la guerre froide, le monde a été témoin d'une tranquillité quand même assez éphémère où la perspective d'une unité mondiale, ça semblait à portée de main, oui, oui. Il faut dire qu'à l'époque, la dissolution de l'Union soviétique, ça avait favorisé un environnement géopolitique apparemment propice à la collaboration puis à une certaine confiance mutuelle. Il faut dire qu'au cours de cette transition-là, eh bien, l'Occident a donné une série de garanties implicites et explicites aux Russes, notamment en ce qui concerne l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Pourtant, à l'approche du tournant du siècle, cette harmonie-là, qui était quand même provisoire, ça a commencé à s'effilocher en sacrement. Ça a mis à nu les promesses non tenues qui allaient devenir la toile de fond du manifeste de Munich de Poutine. La première rupture de confiance, ça remonte à 1998, quand l'OTAN a élargi ses frontières à Pologne, à la Hongrie puis à la République tchèque. Cette mesure-là contrevenait de manière flagrante à l'assurance « pas un pouce vers l'Est » qui était donnée à l'époque par James Baker, qui était alors secrétaire d'État américain. Lui, il avait promis ça à Mikhail Gorbatchev lors des délicates négociations sur la réunification de l'Allemagne entre 1990 et 1991. Il faut dire que, alors que la Russie a conservé une attitude apparemment placide pendant cette phase-là, eh bien, l'empiètement de l'alliance de l'OTAN vers les frontières de la Russie a été perçu avec une inquiétude croissante de l'autre bord. Les Rouskov n'ont pas trouvé ça drôle. Alors, à l'époque, Boris Yeltsin, qui était président de la Russie, bon, un alcoolique notoire, bien, il avait soulevé des objections préliminaires contre cette expansion-là. Il dénonçait ça comme étant un acte de provocation. Le mépris des garanties de sécurité antérieure, c'était un signe inquiétant des tensions croissantes, puis ça annonçait les relations tendues qui allaient suivre, contre lesquelles Poutine avait prévenu à temps dans son discours de Munich en 2007. Il faut dire qu'au cours des années suivantes, la prolifération d'infrastructures militaires à capacité offensive proche des frontières de la Russie, notamment en Pologne puis en Roumanie, ça a exacerbé la situation. Cette situation-là a été perçue comme une transgression de la zone de sécurité des Russes. Alors, loin d'un effort diplomatique qui visait à renforcer l'unité européenne, ces développements-là ont été perçus à Moscou comme un affront direct à leur souveraineté et à leur sécurité. Simultanément, bon, le fameux paradigme des relations internationales, il a subi un changement important. L'Occident, amené par les Américains, avait commencé à épouser une doctrine unilatérale portée par la perception d'une puissance incontestable. Les autres, ils pensaient qu'ils étaient en haut, puis qu'en bas, là, c'était pour écouter. L'ordre mondial unipolaire que l'Occident semblait défendre, ça contrastait en crise avec le monde multipolaire prôné par les Russes. Ça creusait davantage un fossé idéologique entre les deux factions, parce qu'il existait une autre faction. Les autres, les Américains, pensaient qu'ils étaient seuls. Fait que quand Poutine s'est préparé à faire son discours à Munich en février 2007, il était, bon, pas simplement la voix des greffes croissantes de la Russie, il était également le reflet d'une nation aux prises avec des menaces croissantes pour sa propre sécurité, des empiètements de plus en plus agressifs sur sa souveraineté. Puis les Russes vivaient une désillusion grandissante à l'égard d'un ordre international qui semblait ignorer les principes d'équilibre et de respect qui avaient été promis dans le sillage de la guerre froide. Bon, alors, on va se pencher un peu plus sur les thèmes profonds, les avertissements catégoriques contenus dans le discours que Poutine a fait à Munich. Et on va essayer de dresser un portrait d'une Russie au carrefour d'un paysage géopolitique précaire à l'époque. Alors, bon, il faut quand même essayer de faire une analyse des thèmes centraux du discours de Poutine qui a fait à Munich. Il faut dire que c'est un Poutine qui était plus jeune, qui était un peu plus maigre, qui était un peu plus vigoureux. Il faut dire que dans les annales des relations internationales, il existe quelques moments privilégiés qui ont changé de manière monumentale le cours de l'histoire géopolitique. Il faut dire que le discours de Munich, prononcé en 2007 par Vladimir Poutine, qui a fait date, fait incontestablement partie de ces événements-là. Ce discours révolutionnaire a marqué un tournant important dans la trajectoire de la politique étrangère de la Russie. Bon, le discours résume le discernement de Poutine quant à la montée du mécontentement des Russes à l'égard de l'hégémonie occidentale, aux craintes accrues qui concernent l'expansion de l'OTAN vers l'Est et l'anticipation d'un avenir dominé par un ordre mondial multipolaire. Il faut dire que c'était d'une pertinence frappante pour la géopolitique changeante d'aujourd'hui, ce discours-là, le discours de Munich, qui continue à servir d'objectif central à travers lequel on essaie de mieux comprendre les complexités, les nuances de l'actuelle matrice du pouvoir international. Il faut dire que le discours de Poutine à Munich, bien, ce discours-là a profondément critiqué la domination unilatérale de l'Occident, en particulier le rôle autoproclamé du gardien du monde joué par les Américains. Il faut dire que si on dissèque le Poutine, pas le Poutine, on dissèquera pas Poutine, mais on va essayer de disséquer le discours. J'essaie de vous garder avec moi, bien. On va essayer de checker ça pour essayer de refléter tout l'aspect brutal du récit occidental qui présente les Américains comme une superpuissance bienveillante, puis qu'eux autres se sont donné la mission de maintenir l'ordre mondial. C'est-tu d'enfoiré, là? Alors, selon les propres termes de Vladimir Poutine, je cite, « Quelle que soit la manière dont on embellit ce terme-là, il renvoie en fin de compte à un type de situation à savoir. Un centre d'autorité, un centre de force, un centre de décision, c'est un monde où il n'y a qu'un seul maître, un seul souverain. » Il faut dire que cette déclaration brutale-là, ça constitue un défi sans équivoque à l'ordre unipolaire, puis ça a trouvé quand même un écho intéressant au sein de la communauté internationale, en particulier auprès des pays qui se sont sentis affaiblis par cette répartition asymétrique du pouvoir des Américains. Il faut dire que Poutine, il a exprimé ses objections résolues à l'empiètement incessant de l'OTAN sur les frontières de la Russie. Sa position à Poutine était fermement ancrée dans la réalité de l'intégration par l'OTAN de plusieurs pays d'Europe de l'Est et dans les délibérations en cours sur l'adhésion potentielle de la Géorgie et de l'Ukraine à l'époque. Il s'agit là d'une frontière inamovible pour les Russes qui ont fait part de leur position avec une détermination sans faille. Ils ont indiqué que de telles avancées, ça représentait une menace existentielle pour la sécurité nationale de leur pays. Alors, l'OTAN a placé ses forces de première ligne à nos frontières, a déclaré Poutine. Son ton, il reflétait son inquiétude face à l'érosion possible de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Russie. Ces propos-là, ils soulignaient l'inquiétude croissante du Kremlin face à une trajectoire de l'OTAN et aux graves conséquences que tout ça pourra avoir sur la sécurité de la Russie. Il faut dire qu'à Munich, Poutine a envisagé un ordre mondial multipolaire imminent où le pouvoir ne serait pas monopolisé, mais plutôt réparti entre plusieurs acteurs étatiques et non étatiques. Son opposition résolue à un ordre mondial unipolaire, qu'il considérait comme une source de soucis et d'instabilité, a été supplantée par son soutien à un système multipolaire. De son point de vue, une répartition équilibrée du pouvoir, c'est le seul moyen d'assurer une véritable stabilité mondiale. Le discours de Munich de Vladimir Poutine a donc reflété un changement plus large dans la politique mondiale. Les propos de Poutine allaient au-delà d'une simple liste de plaintes. Ils représentaient un discours complet et un examen de la dynamique des relations internationales au 21e siècle. Son discours a constitué un puissant avertissement contre les pièges de l'unipolarité et il a plaidé en faveur d'un système mondial équilibré et multipolaire. Ce discours d'époque a mis en lumière la façon dont Poutine comprend la position de la Russie dans un environnement mondial de plus en plus instable. Il a marqué une rupture importante avec la position antérieure de la Russie sur les affaires internationales et Poutine a souligné la détermination de la Russie à participer avec assurance et à diriger plutôt qu'à juste observer objectivement et passivement l'arène mondiale. Alors, plus de 20 ans plus tard, le discours de Munich de Poutine reste quand même un jalon important dans un paysage géopolitique en constante évolution. Les thèmes, les alarmes et les visions exprimées dans ce discours-là ont non seulement conservé leur pertinence, mais ont également acquis un caractère prophétique face au conflit mondial en cours. Parce qu'il y a un conflit mondial, mesdames et messieurs, ces thèmes-là constituent un cadre global qui permettait de comprendre la position de la Russie sur les questions internationales et il offrait une grille de lecture de l'approche de la nation face aux défis, aux opportunités présentées par un monde de plus en plus multipolaire. L'importance du discours de Poutine à Munich, c'est immense. Ce discours-là fournit des informations inestimables sur le changement fondamental du discours politique mondial et il continue de façonner notre compréhension de la dynamique du pouvoir international. Encore une petite pause, parce que là, je commence à avoir soif, et on continue avec cette Bible, le discours dominique.
I am who I'm meant to be.
I am who I'm meant to be.
Over and out.
Over and out.
Again. My future needed clarity, so I could see how you react. How you react to me. So much differently. I am different today. Doubted all that I could do,
knowing what I need to do.
All I can say, the word is thank you. I think it's what you need to push away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be.
I am where I wanna be.
Remember the start,
remember the start.
When my future needed clarity,
yes, I needed clarity,
so I could see how you'd react.
D'avoir une vue d'ensemble sur le monde qui nous entoure et également d'essayer de trouver les origines de certains bordels. Les avertissements ignorés, Robert Gates puis les mises en garde non suivies, bon, défaite Poutine. Il faut dire que dans l'arène de la politique mondiale, il y a certaines voix prévoyantes qui s'efforcent souvent de mettre en évidence les risques des actions entreprises dans le présent, en projetant leurs ramifications probables dans l'avenir proche. C'est notamment le cas de l'ancien secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, qui a servi sous les présidents George W. Bush et Barack Obama. Toutefois, c'est Vladimir Poutine qui a le plus insisté sur ce point, notamment dans son discours mémorable de Munich en 2007. Malgré le rôle respectif dans des pays que l'on pourrait qualifier d'adversaires, bien ces deux personnes-là ont lancé des avertissements sévères concernant l'orientation de la géopolitique mondiale. Tout ça, malheureusement, c'est resté lettre morte. M. Gates, en particulier, a reconnu et a mis en garde contre les faux pas majeurs de l'OTAN, de l'Occident, et plus particulièrement les Américains à l'égard des Russes dans la période de l'après-guerre froide. Dès 1993, M. Gates a perçu que les nations occidentales avaient gravement sous-estimé la profondeur de l'humiliation et la fierté nationale meurtrie des Russes à la suite de la dissolution de l'Union soviétique. La critique de la politique américaine par M. Gates est franche et sans détour. M. Gates a mis en lumière les dommages causés par les accords américains de rotation des troupes entre les bases de Roumanie et de Bulgarie. Il a qualifié tout ça de provocation inutile à l'égard des Russes. M. Gates n'a pas caché ses appréhensions quant à l'intégration prévue de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN. Selon lui, cette démarche-là revient à ignorer de manière imprudente ce que les Russes considèrent comme leurs propres intérêts nationaux vitaux. Malgré la clarté de ses avertissements, eh bien, tous ces avertissements-là sont tombés dans l'oreille d'un sourd au sein de l'administration américaine. Alors, simultanément, Les avertissements de Poutine dans son discours de Munich, qui aurait dû servir de révélateur aux nations occidentales, ont malheureusement été ignorés. Aussi, le message de Poutine y était quand même sans ambiguïté à l'époque. La patience de la Russie à l'égard de l'expansion incessante de l'OTAN s'épuise. Et il déclarait explicitement que l'OTAN a placé ses forces de première ligne aux frontières russes et a lancé un appel urgent à l'Occident pour qu'il revienne sur sa position agressive. Alors, malgré tous ces avertissements-là, bien l'Occident réagit non pas en considérant sa propre politique, mais en multipliant les provocations. L'administration Bush a redoublé d'efforts pour intégrer l'Ukraine puis la Géorgie dans l'OTAN, au mépris des préoccupations exprimées par les Russes. Cette approche-là, dédaigneuse, ça a servi qu'à davantage à attendrir les relations, à acculer la Russie dans ses derniers retranchements et à contribuer à l'aggravation de toute la tension qui s'accumulait. Il faut dire que malheureusement, cette tendance-là urgeait, ça a persisté. En 2013-2014, les pays occidentaux, notamment les États-Unis, se sont impliqués dans la politique intérieure de l'Ukraine avec l'intention de déposer le président pro-russe élu, Viktor Yanchenyuk. Cet acte a été perçu comme une provocation majeure par les Russes pour jeter l'huile sur le feu. Eh bien, les Américains ont fourni des armes aux Ukrainiens, encouragé une relation militaire client. Ils ont rejeté les avertissements de plus en plus pressants des Russes. Il faut dire que, rétrospectivement, l'importance du réalisme de M. Gates et du discours de Poutine à Munich, eh bien, c'est devenu douloureusement clair. Les avertissements qui étaient autrefois considérés comme pessimistes ou injustifiés semblent aujourd'hui émerger d'une prophétie qui fait foi dans le dos. Ça souligne la nécessité de respecter les sentiments et les intérêts nationaux dans un paysage mondial profondément interconnecté. Puis il y a eu des effets dominos à tout ça. Oui, oui. La Géorgie en 2008, la Libye en 2011, la Syrie. Il faut dire que lors du discours de Munich en 2007, Poutine a clairement indiqué que la Russie s'affirmait de plus en plus sur la scène internationale, serment qu'elle allait bien au-delà de la simple rhétorique ou de l'expansion de grief, l'expression de grief. Au contraire, ces remarques ont fourni un schéma prévisionnel de réponse stratégique des Russes face aux événements géopolitiques majeurs des années qui s'en venaient. La guerre russo-géorgienne de 2008, la guerre civile libyenne de 2011 et la crise syrienne persistante, eh bien, tout ça, ça peut être considéré comme des répercussions tangibles des thèmes dominants du discours de Poutine. Il faut dire que chaque corps présente une étape de la stratégie russe qui vise à contester activement l'hégémonie occidentale et à affirmer sa position à la place dans le paysage mondial. Il réaffirme les principes du discours de Munich de Poutine. Il faut examiner tous ces événements-là individuellement. On verrait comment les préceptes énoncés par Poutine à Munich se sont reflétés dans les actions de la Russie. Ça a démontré ainsi les implications considérables des avertissements négligés qu'il avait présentés à la communauté mondiale. Puis là est arrivée la guerre russo-géorgienne en 2008. Toute cette agitation-là politique a été personnifiée par un personnage douteux du nom de Mikhail Chakachvili. C'est quand même un dirigeant charismatique formé à l'Occidental qui a pris la tête de la Géorgie en 2003. Eh bien, ce Chakachvili en question-là s'est obstiné à vouloir incorporer la Géorgie dans l'OTAN, ce qui a provoqué une profonde inquiétude et une forte objection de la part des Russes. Parallèlement, ces politiques internes ont suscité de la controverse, notamment la répression brutale des manifestations et un système pénal que les observateurs occidentaux avaient qualifié de nécessaire, mais que les groupes de défense des droits ont décrié comme étant presque un régime tortionnaire. Il faut dire que les aspirations géopolitiques de Chakachvili ont prévalu. Ça a conduit à une militarisation accrue de la Géorgie dans le but de ramener l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud sous le contrôle des Géorgiens. Dans l'optique du discours de Munich prononcé par Poutine en 2007, la guerre russo-géorgienne a souligné la position de la Russie contre l'hégémonie, la promotion d'un monde multipolaire. La guerre a fait écho à l'abdomnestation de Poutine contre un ordre mondial dominé par une seule superpuissance qui, selon lui, ça s'appelle le droit international et la souveraineté russe. Dans ce contexte-là, les Américains ont été perçus comme orientant la Géorgie vers un conflit inévitable avec les Russes, tandis que les aspirations de Chakachvili, perçues un peu comme une marionnette, le gars, à adhérer à l'OTAN, ont été perçues comme une menace pour la sécurité des Russes, ce qui a encore attisé les tensions. Alors, pour la Russie, le conflit était plus qu'une simple escarmouche régionale. Non, il s'agissait de protéger ses citoyens, de maintenir une stabilité régionale. Il s'agissait de s'affirmer en tant qu'acteur mondial prêt et désireux de protéger ses propres intérêts. La reconnaissance par la Russie de l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie après cette guerre-là, c'est un signe clair de cette nouvelle réalité. Du point de vue de Poutine, la façon dont l'Occident a géré la guerre russo-géorgienne, ça a confirmé ses préoccupations concernant l'hégémonie et la violation de la souveraineté des nations. L'hégémonie occidentale, bien entendu. Les reportages largement unilatéraux des médias occidentaux ont injustement dépeint les Russes comme étant des agresseurs. Ça a négligé totalement la réalité complexe de la situation. Principalement le fait que les Américains ont effectivement poussé la Géorgie dans un conflit inévitable avec les Russes. Cette discordance-là, narrative flagrante, là, ça ne marchait pas en tout. Ça a souligné la critique de Poutine à l'égard d'un monde unipolaire dominé par les intérêts occidentaux. La guerre russo-géorgienne a été une démonstration cruciale de la vision du monde de Poutine, telle qu'elle a été exposée dans son discours de Munich. Tout ça, ça a reflété l'engagement ferme des Russes à défendre leurs intérêts nationaux, à défier l'hégémonie et l'unilatéralisme et à plaider en faveur d'un ordre mondial multipolaire. L'événement a également rappelé avec force les dangers qui a ignoré ce point de vue-là, avec la possibilité de transformer une discorde régionale en un point d'ignition internationale. Puis là est arrivée la Libye. Ah, ça a été le bordel total. Faut dire qu'à l'époque, la guerre civile libyenne a reflété l'aggravation du désaccord entre la Russie et l'Occident. L'intervention de l'OTAN en Libye, exécutée sous la bannière d'une mission humanitaire. Oui, ça a abouti au renversement et à la mort de Kadhafi. La Russie a considéré cette intervention-là comme une grave trahison de la confiance qui régnait entre les deux parties. Pour le Kremlin, l'Occident a militarisé la doctrine de la responsabilité de protéger en l'utilisant comme un prétexte pour justifier sa prédilection pour un changement de régime. Cette trahison-là, perçue en Libye, ça a précipité un changement critique dans la position de la Russie à l'égard des crises internationales. Elle a commencé à utiliser son droit de veto plus fréquemment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies contre les résolutions menées par les Occidentaux. Tout ça devenant ainsi un obstacle actif à ce qu'elle considérait comme une hégémonie occidentale. Ce changement souligne la transformation de l'approche russe des relations internationales. Une autre dimension cruciale, les implications concrètes du discours de Poutine à Munich. Puis là, je prends un break parce qu'il y a du stock. C'est pas grave, vous réécouterez ça un peu plus tard. Mais okay, là, on s'en va vers la crise syrienne. Je suis pas encore mort. Non, la crise syrienne, ça a démontré la détermination de la Russie à contrer l'hégémonie occidentale. Il faut dire qu'en 2015, la Russie est entrée en guerre. En Syrie, ça a renforcé son soutien militaire également au régime du président Bachar al-Assad. Cette décision-là a non seulement donné à la Russie un point d'ancrage stratégique au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale, mais ça l'a également constitué un signal fort pour l'Occident. Il s'agissait alors d'un indicateur clair de la détermination inébranlable de Moscou de contrer les tentatives occidentales de changement de régime. La crise syrienne a mis en place les évidences, les capacités militaires revitalisées de la Russie et sa détermination à défendre ses intérêts stratégiques contre toute menace perçue. Ça résume la transformation de la Russie, qui est passée d'un acteur relativement passif à une puissance active et fermée sur la scène mondiale. Ces événements-là, ils ont souligné l'évolution significative de la politique mondiale à la suite du discours de Poutine à Munich. Il s'agissait d'une démonstration d'une Russie plus affirmée, prête à affronter ce qu'elle percevait comme étant une agression, une intrusion de l'Occident. Chaque événement souligne l'importance de comprendre le discours de Munich, que Vladimir Poutine a effectué comme étant un indicateur puissant de la pensée stratégique de la Russie. Le monde se trouve aujourd'hui au seuil d'une ère de plus en plus multipolaire. D'un point de vue du discours de Munich de Poutine, c'est évident que ce nouvel ordre mondial-là est façonné par une Russie affirmée, prête à défendre ses intérêts, à contrer la domination unilatérale de l'Occident. Cette affirmation-là s'est manifestée en Géorgie, en Libye, en Syrie, et ça souligne l'incapacité des décideurs politiques occidentaux à tenir compte des avertissements des Russes. Les événements qui se sont déroulés après le discours de Munich à Poutine, ça révèle un changement décisif dans la décision de la Russie en matière de politique internationale. Plus qu'une énumération des greffes ou l'annonce d'un mécontentement russe, le discours a présenté un plan stratégique pour la future conduite internationale de la Russie, une prophétie qui se matérialise aujourd'hui de manière éclatante en Ukraine. Ces actions alignées sur les avertissements de Poutine ont considérablement remodelé le paysage politique mondial. Le point culminant, la mise en garde de Poutine sur les répercussions naturelles de la négligence des intérêts légitimes de la Russie, sans parler de l'atteinte à sa souveraineté, ça deviendrait tout à fait évident dans la crise ukrainienne, qui c'est toujours pas réglé cette histoire-là. Ça représente une ligne rouge existentielle pour la Russie, une frontière qu'elle a franchie avec une force résolue et meurtrière, en parfaite adéquation avec les avertissements implicites du manifeste de Munich. Ainsi, alors qu'on entre dans le contexte ukrainien, la profondeur, la préscience du discours de Munich, de Poutine, deviennent d'autant plus saillantes. Alors, il y a un effet domino, hein, le chapitre ukrainien, l'Ukraine, qui est situé au carrefour de l'Est et de l'Ouest, constitue un témoignage convaincant des avertissements formulés par Vladimir Poutine dans son discours de Munich en 2007. C'est une saga géopolitique complexe qui incarne la lutte incessante pour le pouvoir dans un monde unipolaire et une réalisation vivante des prédictions de Poutine. C'est dans son discours de Munich, eh bien, Poutine a souligné le besoin pressant de multipolarité, de respect du droit international et de souveraineté nationale. Il s'agissait là de principes qui, selon lui, sont constamment bafoués par l'Occident dans sa tentative de domination mondiale. Il faut dire que l'histoire récente de l'Ukraine, ça offre un tableau saisissant des prédictions des avertissements de Poutine. Les bouleversements en Ukraine, ça remonte à 2014, quand les manifestations de l'Euromaïdan ont conduit à l'éviction du président, qui était démocratiquement élu, Viktor Yanukovych. Ce changement de régime soutenu par l'Occident, vu sous l'angle des Russes, signifiait une intrusion manifeste de l'Occident dans la souveraineté de l'Ukraine. Il s'agissait d'une manœuvre visant à retirer à l'Ukraine de la sphère russe et à la rapprocher d'un ordre mondial centré sur l'Occident, ce qui va à l'encontre des valeurs selon lesquelles Poutine avait quand même incité là-dessus à Munich. Les réactions de l'Occident à ces événements-là, centrées sur les cris d'agression russe, ça n'a pas tenu compte du contexte inhérent à la perspective de Poutine. L'annexion de la Crimée à la suite d'un référendum local était moins une acquisition territoriale qu'une réaction qui visait à sauvegarder les droits des Russes ethniques et des intérêts stratégiques de la Russie. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie munichoise de Poutine qui consiste à défendre la souveraineté contre les ingérences extérieures. Eh bien, écoutez, simultanément, la description par Poutine d'une opération militaire spéciale en Ukraine, ça ramène l'attention sur son engagement à défendre la souveraineté nationale. Selon Poutine, l'opération militaire spéciale était nécessaire en raison de la présence d'éléments nationalistes radicaux et de la menace qu'il représentait pour la population russophone en Ukraine. Chacun son opinion, mais en tout cas, Poutine lui considère que l'Occident dépeint cette situation-là comme une invasion et qu'il s'agissait d'une présentation erronée destinée à vilipender la Russie. Ça fait juste creuser davantage le fossé entre l'Est et l'Ouest, tout ça, là. C'est ça, là. Faut dire que, alors que l'effet domino s'étend de la Géorgie à la Libye, à la Syrie, à l'Ukraine, mais de façon réelle, la prophétie munichoise de Poutine devient de plus en plus évidente. Chacune de ces nations a subi le poids de l'interventionnisme occidental. Ça a souligné les risques d'un ordre mondial unipolaire et ça a validé les avertissements de Poutine concernant la domination occidentale face aux sanctions économiques sévères et à l'empiètement de l'OTAN. Poutine a fait preuve d'une détermination quand même assez inflexible. Il a reflété sa position munichoise avec ses actions, ses alliances tactiques et ses stratégies économiques, telles que la formation d'un partenariat avec les Chinois, la domination de l'approvisionnement énergétique de l'Europe et l'émergence d'un leader mondial dans l'exploitation du blé. Ça témoigne d'une clairvoyance stratégique quand même assez importante. Il faut dire qu'en rassemblant les fils disparates de l'histoire de l'effet domino, l'arc allant de la Géorgie à l'Ukraine, ça illustre parfaitement la vision munichoise de Poutine. La tapisserie géopolitique qui se déploie fait écho à ses mises en garde contre un monde unipolaire, puis ça met en lumière l'engagement inébranlable de Poutine en faveur d'un monde multipolaire et du respect des souverainetés des nations. Il faut dire que, quand on regarde tout ça, puis qu'on analyse tous ces événements-là, ça devient évident qu'il ne s'agit pas de simples événements fortuits, mais ça fait partie des changements sismiques que Poutine a prophétisé à Munich en 2007. Le triomphe de la stratégie économique de Poutine, eh bien, c'est la victoire décisive sur le champ de bataille économique. Parce que, écoutez, les sanctions occidentales qui ont suivi l'annexion de la Crimée en 2014 puis le lancement de la grande échelle d'une opération militaire spéciale en Ukraine en 2022, le discours prémonitoire de Poutine à Munich en 2007, a acquis une pertinence quand même assez importante. C'est là qu'il a envisagé un ordre mondial dans lequel les Russes, sans se laisser décourager par la domination occidentale, il pouvait se frayer un chemin vers la prospérité. Il était conscient de la dynamique du pouvoir en jeu. Poutine, il a préparé la Russie à la probabilité d'une guerre économique. Les sanctions destinées à affaiblir la position économique des Russes a suscité des dissensions internes et a l'obligé à faire marche arrière. Ou au contraire, ça a validé la clairvoyance de Poutine et sa catalysé une transformation de la stratégie économique de la Russie, ça a renforcé sa position sur la scène internationale. Alors, en prévision de la tempête imminente des sanctions, Poutine a élaboré une stratégie à multiples facettes, dont les piliers sont la diversification des partenaires commerciaux, la russification de l'économie, hein, acheter russe, l'utilisation agressive du rouble, l'exploitation de la position de la Russie en tant que fournisseur mondial essentiel de ressources naturelles. La Russie n'a pas reculé devant les sanctions occidentales. Au contraire, elle a élargi ses horizons économiques. Ils ont forgé des alliances avec des pays comme l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord. Ils sont tous familiers des sanctions occidentales, anyways. Cette diversification-là stratégique, ça a permis d'isoler les secteurs commerciaux et financiers des Russes dans les contraintes occidentales. Ben, il faut dire qu'en outre, la Russie a tiré parti de sa position au sein du bloc des BRICS, qui est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, pour renforcer sa résistance économique avec l'avènement d'un monde multipolaire. Ces importantes économies émergentes ont offert d'autres voies commerciales et financières qui ont sapé l'efficacité des sanctions occidentales. L'évolution des BRICS, y compris la création de la nouvelle banque de développement et les discussions sur une nouvelle monnaie supranationale, ça reflète cette influence croissante-là. Hein? Écoutez, ça va être une superpuissance, cette monnaie-là. La Chine et l'Inde, en particulier, sont devenus des partenaires commerciaux importants. Et tout ça, ça souligne le pivot réussi de la Russie vers l'Asie et le Sud global. Simultanément, le gouvernement russe a poursuivi un processus de russification économique. Ce processus-là, bien qu'incomplet au début des sanctions, ça fournit un coussin de protection. Ça l'a émoussé. La force de la guerre économique occidentale, ça a rendu obligatoire les transactions en rouble. La Russie a transformé sa vulnérabilité potentielle en un avantage. Ils ont contourné efficacement les systèmes de paiement dominés par les Occidentaux. Cette mesure-là, associée au développement de nouveaux systèmes de paiement, tout ça, ça contribue à l'intégration de la Russie dans le système économique mondial. La Russie a également tiré parti de sa position de fournisseur mondial de ressources essentielles. Eh bien, faut dire que Poutine, tout ça, il l'a souligné dans son discours de Munich. Alors, malgré les tensions géopolitiques mondiales, la demande de pétrole, de palladium, de nickel, d'aluminium, d'engrais potassiques russes est restée soutenue, ce qui a permis d'assurer des rentrées d'argent régulières. D'un point de vue stratégique, l'évolution de la politique étrangère de la Russie, qui s'engage davantage avec l'Est et le Sud, ça reflète une stratégie plus large de diversification économique et de réduction de la dépendance à l'égard des Occidentaux. L'engagement de la Russie auprès de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'Union économique eurasienne et des BRICS, tous considérés comme importants dans la poursuite d'un monde multipolaire, eh bien, c'en est un excellent exemple. Malgré les sanctions, l'économie russe a fait preuve d'une résistance impressionnante. Un ralentissement d'à peu près 2,1% en 2022, ça a été beaucoup moins grave que la chute de 5 à 6% prévue. Les recettes élevées, eh bien, ça provenait des prix du pétrole et du gaz, ainsi qu'une gestion efficace de l'inflation. Ça a permis d'amortir l'impact économique de cette guerre-là, même sous le coup de sanctions sévères. L'économie russe, eh bien, elle devrait maintenir un taux de croissance à peu près de 1,5 à 2 %. Ça fait écho et ça surpasse l'Iran qui a réussi à défier les sanctions américaines depuis si longtemps. Il faut dire que si la résistance à court terme de l'économie russe est indéniable, il faut reconnaître les effets potentiels à long terme de ces sanctions-là, tels que le ralentissement du développement technologique et l'impact sur le niveau de vie des citoyens. Toutefois, les répercussions potentielles, ça n'enlève rien au fait que les sanctions occidentales n'ont pas atteint leur objectif principal, à savoir l'effondrement immédiat et total de l'économie russe. Et ça, ça a été une victoire incroyable de la part de la Russie, gérée par Vladimir Poutine, même si ça ne fait pas l'affaire de plusieurs. Alors, des petites réflexions finales. Alors, rétrospectivement, bien, le discours de Munich prononcé par Poutine en 2007, ça résonne aujourd'hui comme un manifeste prémonitoire. Un phare inébranlable qui éclaire la voie de la Russie dans un monde en mutation rapide avec une clarté audacieuse. Poutine a mis en garde contre les risques d'un monde déséquilibré dominé par une seule puissance, affirmant au contraire la nécessité d'un ordre mondial multipolaire caractérisé par le respect mutuel, le développement partagé et la co-prospérité. Loin d'être une simple rhétorique, cette vision-là a constitué le fondement des actions stratégiques de la Russie sur la scène mondiale et ça a défini sa réponse aux menaces existentielles. Il faut dire que l'opération militaire russe en Ukraine, ça a quand même marqué un tournant dans cette trajectoire-là, une affirmation retentissante de l'appel de Poutine à défendre la souveraineté nationale face aux menaces existentielles. Il ne s'agissait pas d'une quête d'agrandissement territorial, mais d'un acte de nécessité, d'une mesure de protection contre un régime installé par l'Occident qui menaçait les intérêts vitaux de la Russie et sa population russophone. Cette action décisive, bien qu'elle ait entraîné de nombreuses difficultés économiques à court terme et une censure internationale, eh bien, ça a été une affirmation puissante de la détermination de la Russie à défendre sa souveraineté et à préserver ses intérêts stratégiques. Et même si on aime beaucoup les Ukrainiens pour la plupart, eh bien, faut dire que, bon, Les Russes en sont quand même bien sortis. À un moment donné, Poutine, il va s'en aller. Bon, qu'est-ce qui va rester de lui? Bon, il faut dire que l'héritage de Poutine, ça va marquer d'une manière indélébile toute cette période de transformation de l'histoire mondiale. Ça va souligner le pouvoir d'une vision pour remodeler le monde. Alors que l'ordre mondial multipolaire prend forme, la Russie, sous la direction de Poutine, eh bien, qu'on l'aime ou pas, eh bien, ça continue d'incarner l'idée d'un monde fondé sur le respect mutuel, le développement partagé, la co-prospérité. C'est le monde que Poutine a envisagé à Munich en 2007 et c'est le monde que la Russie va continuer à construire contre vents et marées, que ça vous plaise ou pas aujourd'hui. Voilà pour l'édition exclusive du nouveau site distoman.com. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je sais que ça a été un chemin de croix. Ça a été un chemin de croix pour moi également à la narration. Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient également consulter ce concept-là, pourriez-vous me rendre un service? Pourriez-vous leur envoyer un petit texto ou leur en parler en personne? On vous remercie énormément de faire passer le message. Toujours à l'avant-garde, Distoman et toute l'équipe, on vous souhaite de superbes vacances à la construction et on se revoit le 8 pour le tirage. Et n'oubliez pas le code secret pour gagner la Société Fabienne. Écho. Ciao!
Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news? Visitez le site de l'auteur et journaliste Guy Boulian. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres, nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Guy Boulian, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant www.guyboulian.info.
Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.
De banaliser dès le plus jeune âge, d'enlever, de flouter les limites de ce qui fait les repères, la décence, la pudeur. En fait, les enfants ne peuvent pas se construire sur des repères. On se construit tous sur des repères fermes.
À celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi.
Je crois que la laïcité, c'est aussi ce qui protège l'enfant. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents.
Faites gaffe quand vous pouvez poster des photos de vos enfants. Ils vous appartiennent pas et...
L'affiche publicitaire parlant de pénétration se trouve à l'entrée de l'école maternelle à Saint-Brieuc, en Bretagne. La pénétration me fait mal, que faire un gigantesque panneau.
Tout ce que je sais, c'est que je peux vous aider.
Un carré dans un préservatif ou utilise une digue dentaire. Ce morceau de préservatif se place entre ta bouche et l'anus de ton partenaire. Alors je précise une chose ici, moi si jamais je retrouve un adulte qui est devant mon neveu et qui a 11 ans et qui lui explique comment pratiquer un anulingus, soit je le frappe, soit j'appelle la police.
On atteint trop plein tout ce que vous avez cité, et encore, quand vous avez cité la parodie ou le dessin de Keith Haring, c'est pas juste des scènes de copulation, c'est une scène, excusez-moi, de sodomie entre un homme et un animal. C'est-à-dire que ça va loin. Alors entre ça, des spectacles dans l'espace public subventionnés par la mairie de Lyon qui ont fait polémique, qui sont montrés à des enfants.
Je parle de l'enfant de 11 ans ici. 11 ans. Théoriquement, et ce que je retiens de ça, c'est qu'avec ce discours, eh bien, à l'école, on l'a vu cette semaine, il y a tout le savoir vert qui sera acquis pour faire avoir des citoyens parfaitement formés à la transition écologique.
Tout est notre faute. Je vous demande pardon.
Quelle idéologie de parler comme ça à des enfants. C'est quoi derrière? C'est quoi? On veut que les enfants, dès l'âge de 4 ans, 5 ans, c'est quoi?
Encore une fois, il y a une confusion. Ils pensent qu'ils sensibilisent les enfants, par exemple, à la notion de consentement sexuel, à la notion de sexualité. Mais en fait, je crois que c'est le contraire qui se passe dans les faits. C'est pas une sensibilisation, c'est une désensibilisation.
Notre fils a été agressé par son grand-père.
Ils sauront désormais comment appliquer pour devenir de parfaits acteurs porno, mais pour ce qui est de la lecture, de l'écriture, de la connaissance de l'histoire, on laisse ça de côté, ce sont les savoirs optionnels.
Et justement, je pense que c'est dangereux parce que les prédateurs s'engouffrent dans ce flou, dans cette fluidité entre le oui, oui peut-être, non, mais pourquoi pas, mais le non. Non, c'est oui ou non le consentement. Je suis désolée. Et moi, j'ai pas envie qu'à l'école, j'ai une petite fille de 5 ans, j'ai pas envie qu'on apprenne la masturbation à ma petite fille de 5 ans.
C'était fait un faux profil Facebook pour séduire sa propre fille.
Exact.
Protéger les enfants et les sensibiliser à la, ou les désensibiliser à la sexualité, ce n'est pas les protéger. Si on voulait vraiment, c'est là où il y a une certaine hypocrisie, si vous voulez. Si on voulait vraiment protéger les enfants, déjà on lutterait en priorité contre le harcèlement, contre les prédateurs sexuels. Et comment on fait ça? En ayant une répression exemplaire, exemplaire, exemplaire.
Site affilié au gouvernement, que fait-on de nos enfants? Allez voir vous-même. Allez voir vous-même.
Et je ne pense pas que ces gens soient majoritaires. Je pense qu'on les entend beaucoup parce qu'ils sont dans une démarche conquérante, dans une démarche conquérante, de idéologique conquérante. Et donc, comme pour d'autres sujets, on les entend énormément.
Pour ni de masturbation, ni de pratique sexuelle. Évidemment pas. Ce sont des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Qu'est-ce que l'on apprend dans ces séances ? Eh bien, le respect d'autrui.
Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Je crois que c'est une pépite.
Comment ça s'appelle quand il sort du pénis ? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord ?
On voit régulièrement des infos passer où vous voyez tel juge qui prostituait sa fille de 12 ans avoir un an de sursis, ou tel député qui avait des images pédopornographiques pouf s'en sortir et on n'en parle pas trop. Tout ça, c'est un peu ça passe un peu sous les radars. Voilà.
L'éducation nationale a organisé une réunion pour nous expliquer évidemment qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et il y a eu des psychologues scolaires qui étaient là. Alors je me suis dit, bon, je vais y aller et tout. Ah ben non, ils m'ont dit, non mais vous inquiétez pas, vos filles sont petites, elles vont oublier. Ah, ils m'ont dit ça.
Quand un ministre de l'éducation nationale, que Pape Diaye, met d'abord l'accent justement sur l'apprentissage de la sexualité, bon, très bien.
Démissionnez, ayez la dignité de démissionner.
Comité d'accueil au son des casseroles pour Pape Ndiaye à la gare de Lyon à Paris. Face à la cohue, le ministre a quitté la gare par la petite porte sous escorte policière.
Ma visite n'a été que très légèrement modifiée et je vais continuer évidemment à me déplacer de façon régulière parce que je suis un ministre de terrain.
C'est quoi le problème en France, quoi ?
En France, en 2015, l'INSEE estime que 154 000 enfants ont été victimes de viols ou d'attouchements sexuels. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 2 enfants par classe. Sur ces enfants, seulement 4% des victimes portent plainte. Seulement 30% de ces plaintes sont instruites et sur ces 30%, seulement 10% aboutissent. Au total, c'est 0,3% des victimes qui arrivent à condamner leurs agresseurs. 0,3%. Autant dire qu'en France, la pédocriminalité est un crime quasi impuni.
Où finalement, comme on a cassé tous les codes, c'est la phrase préférée de tous les gens qui veulent être cool ou je sais pas, à force de casser les codes, on a cassé tout. On a cassé les repères. Et quand on n'a plus de repères, le danger, c'est qu'on ne sait plus quelle est la priorité. Parce qu'on n'a plus de repères.
C'est comme si tu voyais un doigt pointé en direction de la lune. Surtout, ne concentre pas ton attention sur le doigt, sinon tu passeras à côté de toute la splendeur céleste.
Parce qu'on n'a plus de repères.
Tu as compris.
On ne sait plus quelle est la priorité, parce qu'on n'a plus de repères.
Ne quitte jamais ton adversaire des yeux, même quand tu le salues. C'est bien.
On est passé comme des coupables à la barre, devant le juge. Alors on m'a dit, la parole d'un enfant n'a que très peu de valeur aux yeux de la justice française. Et je le confirme. Un dernier mot, je voudrais vraiment dire aux parents de se mobiliser que vraiment c'est important.
Peut-être aussi s'occuper de ceux qui laissent faire. Vous savez, quelquefois, vous savez, c'est la phrase d'Einstein, le pire, ce ne sont pas ceux qui font le mal, c'est ceux qui laissent faire.
Je veux être équipé, que tout le monde soit équipé eux-mêmes d'un esprit critique qui sont c'est l'outil pour pouvoir faire des bons choix et pour pouvoir décider pour soi-même de ce qui est bon pour soi. Voilà. Et c'est ça, protéger les enfants. C'est pas leur apprendre à se masturber.
Vous y voyez plus clair ? Bien.
Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents.
Thank you.
Thank you.